With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther au micro cette semaine, un sujet en plein cœur de l'actualité. Peut-être avez-vous entendu parler ou vu des images de la marche des solidarités. Une marche pour les droits des personnes sans papiers emmenée par elles et eux et soutenue par plus de 200 organisations. Partie de toute la France, elle converge actuellement vers Paris où elle arrivera samedi 17. Et pour l'occasion, nous donnons donc la parole à Amel. Amel a cofondé le collectif Immigrants de France et largement participé à l'organisation de cette marche. Elle nous raconte donc les coulisses, les revendications. Elle nous parle aussi de son quotidien de personne sans papier et des conséquences que ça a sur sa vie. Bonjour Amel.
Bonjour.
Alors, samedi prochain doit avoir lieu la marche des solidarités. Vous avez pris part à son organisation, à son lancement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ?
En fait, samedi prochain, c'est le 17 octobre, c'est la grande manifestation pour les sans-papiers. Il y avait déjà une marche nationale qui était déjà commencée le mois de septembre. Donc, c'est commencé le 19 septembre à Marseille et Montpellier, le 3 octobre à Lyon, Strasbourg, Rennes et Lille. Donc, toutes les marcheurs, il y a 5 axes pour cette marche. Tous les marcheurs, ils vont arriver à Paris le 15 et le 16, où le 17, il y aura une grande manifestation pour les sans-papiers.
Et alors, pourquoi avoir organisé cette marche ?
En fait, vu qu'il y avait la crise sanitaire, donc c'est là où ils sont papiers, ils étaient franchement parce qu'ils ne travaillent pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui sont sortis pour travailler, ils n'ont pas le choix. Donc, pendant cette crise sanitaire, ils étaient en première ligne. Alors, une crise sanitaire, normalement, l'humanité et la solidarité, normalement, doit être lieu, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, du coup, les sans-papiers, là, ils ont dit qu'il faut qu'on parle, il faut qu'on fait un truc. Donc, nous avons fait une manifestation le 30 mai, où il y avait 10 000 personnes. Après, nous avons fait la deuxième manifestation le 20 juin, où il y avait 55 000 personnes. Et il n'y avait pas une réponse de la part du gouvernement ou quelque chose. Donc là, on a dit qu'il faut qu'on prépare un truc qui est national. Ça veut dire là, pour cette manifestation de samedi 17 octobre, par rapport aux autres manifestations, là, c'est toutes les villes de la France, ils seront là. Donc, par exemple, il y a les marcheurs qui vont arriver de tous les axes. Donc, il y aura Marseille, Montpellier, Lyon, Strasbourg, toutes les villes de la France ici. Il y aura d'autres, ils n'ont pas eu l'occasion pour marcher, mais ils vont venir le 17 pour manifester. Ça veut dire toutes les villes en France à Paris le 17 octobre.
Et alors, vous avez marché justement au départ, il me semble ?
Oui.
D'où à où ?
En fait, j'ai marché de Grenoble à Lyon. Donc, avant qu'on commence cette marche, je voulais faire un week-end parce que je ne peux pas faire plus. Donc, vu que je suis maman et tout, c'est un peu compliqué. Mais après, dès que j'ai vu les marcheurs, ils ont commencé à marcher et tout, ça m'a donné l'envie de marcher et tout. Donc, j'essaie de faire un peu de sacrifice à droite, à gauche pour marcher une semaine. Donc, j'ai fait l'étape de Grenoble-Lyon du 29 septembre pour arriver à Lyon. Nous sommes arrivés le 1er octobre et le 3 octobre, nous avons fait une manifestation à Lyon.
Et alors, comment ça se passe sur place quand on marche tous ensemble comme ça ?
Franchement, c'est super parce qu'au début, c'était de marcher pour les revendications. C'est la régularisation des sans-papiers, fermeture des centres de rétention et il y a logement pour toutes et tous. Mais après, quand on commence à marcher, en fait, c'est une autre vue. Il y a beaucoup de choses. C'est une aventure. On découvre beaucoup de choses. Par exemple, là, moi, personnellement, je ne connais pas les petits villages et tout. Mais là, c'était occasion au moment. Et franchement, la Kinsu, c'était super. Nous avons marché l'axe de Grenoble vers Lyon. Donc, nous avons marché 5 jours. Dans les 5 jours, il y avait des hébergements, soit des salles, soit des gymnases, et des fois chez des habitants, malgré la crise sanitaire. Donc, les habitants français, franchement, ils ont dit oui, la solidarité, oui, l'humanité avec les sans-papiers pendant cette marche.
Alors, vous avez commencé tout juste à parler des revendications. On va se pencher dessus un peu plus en détail. Donc, la première, vous l'avez dit, c'est la régularisation de tous les sans-papiers. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi c'est important ?
Oui. En fait, il y avait en 1983, il y avait une marche. C'était presque pareil. Il y avait une marche. Peut-être l'histoire se remettre.
C'était la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui avait été un peu surnommée la marche des beurs dans les médias.
Où il y avait, c'était à l'époque de François Mitterrand, où il y avait 100 000 de régularisation des sans-papiers. Donc là, franchement, comme il y avait cette crise sanitaire, on dit que voilà, l'État veut prendre toutes les mesures pour que tout le monde soit égal, pour qu'il y ait de la solidarité avec tout le monde. Donc là, je crois qu'il y a la régularisation des sans-papiers. C'est là ou jamais, hein. Vu que les sans-papiers, parce que c'est une crise sanitaire, mais c'est presque une guerre. Donc, si nous sommes en guerre, donc là, franchement, normalement, tous les habitants français, ça veut dire tout le monde qui habite en France, ça veut dire pas forcément des Français. Même les sans-papiers, ils sont sur le sol français, ils ont passé cette crise sanitaire sur le sol français. Donc la régularisation des sans-papiers, je crois que c'est aujourd'hui ou jamais.
Parce que la crise sanitaire, elle les a affectés en particulier, on a commencé à le dire tout à l'heure, en quoi c'était plus difficile pour la majorité des sans-papiers que pour quelqu'un qui...
Oui,
qui
parce que par exemple, il y a beaucoup de situations pour les sans-papiers. Par exemple, il y a des gens qui travaillent, ils ont perdu leur travail. Perdu leur travail, ça veut dire il n'a pas quoi manger, il n'a pas... Il y a si on parle aussi de logement, il y a des gens qui habitent dans des foyers, dans des hôtels et tout. Il y a des familles et tout, ils étaient confinés dans une chambre, pas dans une maison, c'est confiné dans une chambre, c'est pas comme une maison. Donc, franchement, c'est là ou jamais pour les sans-papiers.
Et aux personnes qui répondent à cette première revendication, l'argument classique de « oui, mais on ne peut pas régulariser tout le monde, on n'a pas de place pour tout le monde, etc. », qu'est-ce que vous répondez, vous ?
Nous avons marché un mois et là on va manifester la grande manifestation pour la régularisation de tous les sans-papiers, parce que s'il y aura des régularisations cas par cas, c'était déjà tout le temps, il y avait ça par exemple, soit avec le travail, soit avec le circulaire de Valls ou quelque chose. Donc là, comme il y avait la crise sanitaire, donc je crois que c'est très important la régularisation de tous les sans-papiers, sans exception, ça veut dire sans dire cas par cas.
La deuxième revendication importante, c'est la fermeture des centres de rétention administrative. Donc là-dessus, je pense qu'il faut expliquer un peu parce que c'est assez complexe comme sujet et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un centre de rétention administrative. Donc, qu'est-ce que c'est ?
En fait, un centre de rétention administrative. Donc, il y a toujours des contrôles des pièces d'identité. Les sans-papiers, ils n'ont pas de pièce d'identité, donc ils leur mis dans des centres de rétention pour après évacuer dans leur pays. Alors, c'est presque un prison, c'est privation de liberté et tout. Et si on dit la liberté, ça, c'est pas du tout de la liberté. Et là, par exemple, si on demande aussi la fermeture du centre de rétention, parce qu'il y a des gens qui sont normalement pour le centre maximum, normalement 90 jours pour l'évacuation. Et là, on sait très très bien que les frontières, elles sont fermées. Donc, au moins pendant cette crise sanitaire, au moins fermeture de centres de rétention.
Temporairement, vous voulez dire ? Ou définitivement ?
Pourquoi pas définitive, mais au moins pendant cette crise sanitaire. Parce que, par exemple, nous avons manifesté devant le centre de rétention à Lyon. Et on était en direct avec quelqu'un qui était dans le centre de rétention. Ils disent que les gens, franchement, ils galèrent. Il y a des gens qui veulent se suicider. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, si on ne peut pas l'évacuer dans leur pays, pourquoi pas on les libérer ?
Parce qu'effectivement, en fait, dans ces centres, les personnes qui sont arrêtées attendent une décision du juge, soit pour être expulsé, soit pour finalement pouvoir demeurer sur le territoire. Moi, j'avais cherché quelques chiffres avant cette interview. Alors, j'ai vu que sur l'année 2019, le rapport notamment de la CIMAD et de d'autres organisations est sorti il y a quelques jours, le 20 septembre, enfin, il y a quelques semaines. Et il disait qu'il y a un taux d'exécution des expulsions qui est de 12,5% seulement. Donc en fait, dans beaucoup de CRA, on va enfermer des gens, parfois pendant des périodes très longues. Avant, c'était jusqu'à 45 jours, maintenant c'est jusqu'à 90 jours, voire plus s'il y a des faits de terrorisme ou ce genre de choses. Mais en fait, généralement, ils finissent quand même par être relâchés sans forcément être expulsés. Mais le traumatisme d'être passé dans ces centres où les droits humains sont très peu respectés, où la possibilité d'avoir accès au recours juridique n'est pas forcément toujours respecté. Et j'ai même vu des chiffres selon lesquels on estime qu'il y aurait 3000 enfants, même un peu plus, qui seraient passés par ces centres de rétention au cours de l'année 2019. Et c'est sans compter toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, etc. Et il notait dans ce rapport, donc, comme vous disiez, une augmentation des faits de violence et actes désespérés comme des automutilations, des grèves de la faim ou des tentatives de suicide.
Ouais, la dernière fois que nous avons manifesté dans Bonlion, il y a des gens qui sont... depuis le 3, ça fait 20 jours de grève de faim. Il y a des gens qui là, ils sont dans le centre de rétention en plein de grève de faim. Il y a des gens qui ont essayé de se suicider. Et il y a des gens, ils disent qu'on demande, il y a quelqu'un qui il y a une luxation au niveau des épaules. Il est resté avec les douleurs pendant 48 heures. Donc franchement, c'est...
Donc en fait, c'est des centres dans lesquels il y a de nombreuses atteintes aux droits.
Et en fait, les gens, par exemple, qui sont dans la rétention, ils ont pas, c'est presque prison, ils n'ont rien fait. C'est juste ne pas avoir un bout de papier quand même. Et en plus, en plein de crise sanitaire, on laisse les centres et il y a des cas positifs dans les centres. Et d'après des gens, ils disent que voilà, il y a des cas positifs. En plus, on est 5-6 dans la chambre. Donc si on applique des mesures sanitaires pendant cette période, donc on va l'appliquer sur tout le sol français et dans tous les lieux, pas forcément que ailleurs, alors que les centres de rétention, il y a aucune mesure, il y a aucune chose.
Par rapport aux gens qui ne sauraient pas comment ça fonctionne et qui écouteraient ce podcast, qui pourraient se dire oui, mais donc si on met plus en place les expulsions, ça fait écho à votre première revendication qui est on légalise tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes que ces centres de rétention administrative dans la mesure où on veut expulser? Et en fait, alors déjà, oui, il y a d'autres méthodes, je crois. Et en plus, si on applique la première revendication qui est de régulariser tout le monde, il n'y en a plus besoin, c'est ça?
Oui, s'il y aura la régularisation. Donc, c'est l'État qui a choisi qu'il soit sans papier, soit contrôlé, donc il est dans le centre de rétention. Donc, si la première revendication, elle est là, donc il n'y aura pas besoin de... Donc, les autres revendications, il n'y aura pas lieu.
Parce que la troisième, donc, ça concerne le droit au logement pour toutes et tous. Ouais.
Et là, par exemple, quand on dit logement pour toutes et tous, donc au niveau du logement, donc il y a beaucoup de gens qui sont déjà régularisés et là ils attendent des années pour être logés dans des logements où la vie elle est normale, c'est pas dans des foyers ou dans une chambre et tout. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a les sans-papiers, ils galèrent. Il y a des gens qui maintenant ils sont hébergés chez particuliers, il y a des gens qui sont dans les rues, il y a des gens qui sont dans des hôtels, il y a des gens qui sont dans les foyers. Donc la vie c'est dur si on n'a pas, parce que le toit il est très important aussi. Alors que s'il y a une régularisation, s'il y a la première revendication, donc tout vient rapidement.
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes de séjour qui sont délivrées. Alors, souvent, elles ne sont pas délivrées, donc on ne peut pas trouver un travail régulier ou un logement stable. Mais même quand il y a des titres de séjour qui sont délivrés, souvent, ils ne le sont que pour quelques mois, ce qui ne permet pas de s'établir de manière stable non plus.
Oui, parce que là, par exemple, généralement, pour les logements et tout, ils demandent des fiches de paie et tout. Alors, il y a des travails... Les gens, ils passent des entretiens et tout. Après, ils disent, hop, vous avez que 2 mois, 3 mois sur votre carte de séjour. Hop, vous n'avez pas la carte de 1 an. Hop, vous n'avez pas la carte de 10 ans. Donc, Franchement, c'est compliqué pour les logements.
Donc, c'est pour ces trois revendications-là que la marche a lieu. Donc, déjà, on l'a compris depuis plusieurs semaines, depuis les quatre coins de la France. Et que ça
cinq,
va se faire
cinq.
Les cinq coins de la France.
Cinq axes.
C'est vrai qu'il y a cinq axes. Et donc, que ça va se terminer à Paris donc ce samedi 17 octobre. Donc ça, c'est pour cette action particulière. Moi, j'aimerais revenir sur votre parcours en particulier, Amel. Et pour ça, on va repartir un peu dans le passé. Est-ce que vous vous souvenez de votre première indignation? Le premier truc que vous avez trouvé injuste dans votre vie?
Être sans papier.
Ça, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu votre histoire à ce niveau-là ou...
Oui. Être sans papier, c'est dur parce que tu veux tenter... T'as la chance d'avoir beaucoup de choses, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas sans papier. Pour travailler, t'as pas. Par exemple, il y a des gens qui ont de l'expérience et tout, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont diplômés et tout, ils ne peuvent pas. Donc, moi, personnellement, je suis en France, ça fait 4 ans et demi. Être sans papier, c'est très dur, très dur, très dur. Parce que pour les individus, pour les familles, pour les mamans, pour tout le monde, être sans papier, c'est franchement...
Là, vous êtes encore sans papier?
Oui, ça fait 4 ans et demi, je suis encore sans papier. Ouais.
Mmh. Et donc, comment vous vous débrouillez concrètement, votre quotidien, et vous vous organisez comment?
En fait, au début, c'était compliqué parce qu'on ne connaît pas les gens et tout. C'est pour trouver quelques heures de travail, quelques heures de ménage et tout. Donc, j'ai commencé à faire des bénévolats. Donc, j'ai dit, puisque je n'ai rien à faire, au moins, je fais des bénévolats. Donc, et là, grâce au bénévolat, je commence à faire des contacts, je commence à faire un petit entourage. Donc, c'est là où j'ai commencé à reconnaître les gens et tout. Parce que si tu n'as pas le papier, tu ne peux pas travailler. Et si même, par exemple, tu vas chez quelqu'un, il a besoin de toi, mais tu n'as pas de papier, en plus, il ne te connaît pas. Par contre, s'il y a un intermédiaire, il y aura une possibilité de quelque chose. Mais s'il n'y a pas un intermédiaire, donc ce ne sera pas le cas. Donc voilà, j'ai commencé à faire des bénévolats et tout. Après, j'ai fait un petit entourage. Donc c'est là où j'ai commencé à faire des heures de ménage et tout. Donc, pour essayer de passer la vie un peu.
Mais donc, si je comprends bien, aujourd'hui, votre situation, elle reste très précaire puisque vous n'avez pas, j'imagine, de contrat stable. Vous ne pouvez pas bénéficier d'allocations chômage si du jour au lendemain, vous ne pouvez pas travailler.
Là, franchement, il y a des gens qui, je parle avec eux, ils me disent, voilà, tu parles français, voilà, tu peux faire beaucoup de choses, mais ils sachent que je n'ai pas le papier, donc là... Eux, ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Donc je n'ai pas de papier, ils ne peuvent pas me faire travailler ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai essayé plusieurs fois, mais tant que tu n'as pas de papier, c'est...
Et ces papiers, donc, est-ce que vous en avez fait la demande?
En fait, je n'ai pas encore fait la demande parce que, vu ma carte, moi, je suis une maman d'un enfant qui est scolarisé. Donc, la loi de Valls, elle dit 5 ans de présence en France et 3 certificats de scolarité. Là, j'ai 4 ans et demi, donc il ne me reste pas beaucoup. Mais franchement, 5 ans sans papier, avec un enfant, surtout avec les enfants, c'est compliqué la vie avec des enfants parce que quelqu'un l'adulte, il peut comprendre, il peut passer des choses. Même, il ne peut pas manger un soir, il peut. Donc voilà, il peut, mais pour un enfant, c'est compliqué.
Mmh, j'imagine. Je vous pose ces questions-là parce que je pense que, en fait, cette parole, elle est rare dans l'espace public. On entend rarement des témoignages de à quoi ça ressemble vraiment un quotidien quand on n'a pas ce document qui nous permet de rester légalement, d'obtenir un travail, d'obtenir un logement stable. Et aussi parce qu'en fait, il y a plein de freins au dépôt du dossier. Il y a, par exemple, aussi des frais qu'il faut payer quand on fait une demande de papier.
Oui, mais pas forcément les frais. Franchement, c'est la loi, par exemple. Si on dit un sans-papier, restez 5 ans légal. Et après, ramène-moi des preuves légales. C'est des choses qui sont contraires, carrément. Donc, voilà, t'as pas de papier, vis comme ça. Après, quand tu finis 5 ans, ils demandent, ramène des preuves comme quoi tu es sur le territoire, t'as fait des choses. Donc, c'est aussi au niveau des lois. Et là, par exemple, pour la crise sanitaire, nous avons sorti, nous demandons nos droits, la régularisation et tout, parce que nous, les sans-papiers, franchement, être sans-papier dans les autres conditions, d'accord, peut-être on essaye de passer, mais là, peut-être nous avions des heures de ménage, nous avons perdu ça, vu qu'il y avait la crise sanitaire. Il y a des gens qui sont confinés avec leurs enfants, il n'y a rien à manger, il n'y a rien... Franchement, c'est dur.
Et puis ça met en place, en fait, cette situation de fait ouvre la voie à plein de formes de domination et d'exploitation.
Ah oui, ça c'est sûr. Les gens, voilà, ils savent que tu es sans papier, donc tu ne peux pas demander tes droits et tout, donc ils profitent de ça. Alors par exemple, il y a des gens qui travaillent, un sans papier, ils travaillent avec quelqu'un qui a le papier, ils travaillent le même travail, le même horaire après. Celui qui n'a pas de papier, il touche la moitié que l'autre qui l'a touché, alors que l'autre, il a aussi le droit, il a le droit de chômage, s'il y aura quelque chose, s'il y a un accident de travail, quelque chose. Par contre, un sans-papier, c'est travail, d'accord, c'est travail pas, donc tant pis pour eux.
Donc ça, c'est la première chose que vous avez trouvée foncièrement injuste, donc de vous retrouver sans-papier.
Sans-papier, ouais.
Mais j'imagine que entre cette situation-là et rejoindre donc le collectif des immigrants de France, comme vous l'avez fait, je ne sais pas si ça se fait du jour au lendemain ou est-ce qu'il y a un déclic qui vous fait passer de l'indignation à l'action ?
En fait, nous, les sans-papiers, franchement, ça fait 4 ans et demi, donc il y a... Il y a des bénévoles à faire, il y a des permanences et tout, on peut assister des permanences et tout, mais nous n'avons pas imaginé qu'un jour, les sans-papiers vont sortir à la rue pour demander la régularisation des sans-papiers. Donc ça aussi, donc là, moi franchement, comme j'ai vu, il y avait des appels que voilà, il y a des manifestations qui se préparent, donc le mois de mai, et pourtant c'était un confinement, hein, c'était le 30 mai, c'était pas encore le... Enfin, on n'est pas encore fini, mais vu qu'il y avait la motivation d'un part, et en plus, nous étions confinés dans des conditions dures. Donc là, c'est le moment pour sortir, pour créer et tout. Donc là, nous avons fait la manifestation, la première manifestation, la deuxième manifestation. Et après, c'est normal, il y avait des contacts avec des gens et tout. Et nous, les trois, moi, Leïla et Monsef, c'est nous que nous avons créé le collectif des immigrants en France. Ça veut dire que c'est un nouveau collectif qui s'est créé après les deux manifestations.
Mmh. Et vous l'avez créé dans quel objectif ?
Nous avons dit que collectif des immigrants en France, ça veut dire pas forcément que les sans-papiers, parce que même c'est pour tous les immigrants, parce que des fois, il y a un immigré qui est avec papier, mais après, une fois... car ce jour, c'est fini, il devient aussi un sans-papier. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est pour tous les immigrants en France. Et là, nous avons dit, mais a priori, les sans-papiers. Donc là, avec toutes les collectives, nous travaillons ensemble pour cette marche nationale.
Et donc, quels sont les autres collectifs avec lesquels vous travaillez ?
Oui, et là, par exemple, pour cette marche nationale, il y a plein de collectifs. Il y a 237 signataires sur cette marche nationale. Donc, il y a beaucoup de collectifs des sans-papiers à Paris. Donc, nous, à Paris, chaque lundi, nous avons une réunion. Donc, où tous les Parisiens, tous les collectifs des sans-papiers, avec les soutiens, parce qu'il y avait d'autres associations. Il y avait Solidaires, il y a Droit Devant, il y a... la CIMAD, la CGT et tout ça. Donc, nous, en faisant des réunions chaque lundi et en faisant aussi une réunion nationale, ça veut dire nous avons des contacts avec toutes les villes, Grenoble, Lyon, Marseille et tout. Chaque jeudi, nous faisons une réunion nationale pour l'organisation de la marche.
Et donc, ce collectif des immigrants de France, il s'est monté juste dans l'objectif de la marche ou vous comptez mettre en place d'autres actions par la suite ?
Non, il y aura d'autres choses par la suite, mais là, nous sommes investis sur la marche nationale, mais après, il y aura beaucoup de choses.
Vous savez déjà un peu ce que vous voulez mettre en place ?
Là, on travaille sur la marche nationale, mais après, on va travailler tout ce qui est immigrant, tout ce qui est droit, tout ce qui est après même. On peut passer aussi à l'action sociale, pourquoi pas, faire des repas, faire des choses. Mais pour le moment, franchement, on est sur la marche nationale.
J'imagine que lorsque vous défendez vos idées avec ce collectif, il vous arrive régulièrement de rencontrer des oppositions, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Si oui, quelle forme elles prennent ?
En fait, pour le moment, un collectif, il est encore jeune et tout. Pour le moment, on reçoit beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement. Donc, on n'est pas tombé sur le cas. Pas encore.
Ok, tant mieux. Et même, même plus largement, dans votre vie, quand vous avez discuté de ce sujet ou autre, vous êtes plutôt entouré de gens qui sont d'accord avec vous ou ça vous est arrivé d'être confronté
Oui, il y a des gens qui disent « Vous faites n'importe quoi parce que voilà, comment ça, des sans-papiers, demandeurs de droit. » Déjà vous n'avez pas le droit et vous sortez pour demander votre droit et tout, mais il faut croire à...
Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là?
Moi personnellement je dis moi c'est, si je fais un truc donc je sais c'est quoi je fais et je défends mes revendications, voilà, si nous sommes là c'est pour les droits, c'est pour faire beaucoup de choses.
Je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours, parce que donc, vous avez dit que vous étiez arrivée il y a 4 ans et demi en France,
ouais.
C'est ça ? En venant, vous vous attendiez à ça ? À cette situation d'être sans papier et que ça dure aussi longtemps, que ce soit aussi difficile ?
Bah, oui et non. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont passé avant nous, donc ils ont passé par ce parcours et tout. Mais on a dit peut-être par le changement de président, il y aura changement de loi et tout. Mais malheureusement, on n'a pas tombé sur le cas pour le moment.
Oui, d'ailleurs, la loi, elle a plutôt changé dans l'autre sens.
Dans l'autre sens, c'est vrai.
Parce qu'avec la loi Asile et Immigration qui est passée en 2018, en fait, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, notamment pour les CRA, les centres de rétention administrative. Ouais, ouais. Où les délais d'enfermement sont passés de 45 jours maximum à 90 jours maximum. Et
c'est pour ça, il faut qu'on crée des collectifs, il faut qu'on entrevoie, entendre partout, à la chaîne nationale ou internationale, pour faire des limites pour ça, parce que il y a des choses qui avancent vers le vers le mauvais, pas vers le meilleur. Là, franchement, c'est on arrive à un point où c'est un député, il donne à manger à quelqu'un, il aura une amende. C'est franchement.
Et vous, vous avez l'impression justement que cette marche, elle est bien reçue jusqu'à présent ?
Oui, nous avons fait la première manifestation, deux manifestations, d'accord, mais là pour la marche, puisque c'est une marche. Par exemple, la manifestation, les gens, ils viennent, ils manifestent, ça veut dire l'action, elle est le jour même. Mais là, la manifestation, c'est le 17 octobre, mais la marche, comme elle a commencé, ça fait un mois. Ça veut dire en marchant dans les villes, en marchant dans les villages, il y a des sensibilisations, il y a tout le monde. En plus, il y avait des médias qui sont venus, il y avait des journalistes, soit TV, soit radio. Donc là, franchement, tout le monde est au courant. Nous avons des contacts avec des journalistes comme vous, par exemple. Donc elle est bien médiatisée, donc cette marche. Donc si on marche un mois dans toutes les villes, ça veut dire que tout le monde est au courant qu'il y a une marche qui aura lieu. Et tout le monde est au courant que le 17 octobre, c'est y a un truc formidable qui se prépare, vu que toutes les villes sont ici à Paris.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à lancer ce collectif et à ne pas rester... En fait, vous auriez pu juste participer à la marche et ne pas lancer votre propre collectif pour porter vos propres revendications.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait à un moment que vous dites... avec d'autres personnes, donc non, ok, on va créer notre collectif pour défendre nos positions.
En fait, nous avons fait les deux manifestations, on n'avait pas dans la tête qu'on va créer un collectif ou quelque chose comme ça, c'était pas le cas. Mais après les manifestations, donc nous assistons à des réunions, donc il y a beaucoup de voix, donc il faut rassembler ces voix dans un cadre. Et le cadre, c'est un collectif. Après, pour un collectif, il faut créer un collectif, il faut le créer. Parce qu'après, si on fait un acte, comme là, on fait l'acte 3 pour le 17 octobre, donc s'il y aura une régularisation, donc il y aura le contact des collectifs, ce n'est pas des individus. Donc, s'il y aura la régularisation, une réponse positive, l'État va contacter les collectifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut être encadré dans un collectif. Et voilà, nous avons créé des collectifs et nous avons fait nous avons assisté à des manifestations. Il y avait des manifestations pour le logement, pour le racisme. Et nous avons fait aussi la manifestation de 22 août, où c'était l'église de Saint-Bernard pour la commémoration de Saint-Bernard.
Et vous pouvez rappeler un petit peu ce que c'était, ça ?
Oui, en fait, pour le 22 août, c'est une date pour les sans-papiers. Donc, le 22, août en 1996, il y avait des sans-papiers. Ils ont occupé une église pour rester parce qu'ils n'avaient pas un abri où se mettre et tout. Et après, il y a des policiers qui sont, ils sont venus, ils ont violencé les familles et tout. Et après, il y avait des manifestations de ça où il y avait la régularisation de ces familles. Donc, chaque année, il y aura la commémoration de l'église de Saint-Bernard. Mais cette année, c'était beaucoup plus parce que comme il y a ce mouvement, comme il y a la marche nationale qui se prépare, donc le 22 août, cette année, c'était franchement, c'est pas comme les autres années passées.
Pour revenir à ce qu'on disait juste avant, donc on comprend bien que c'est une forme de protection aussi, ce collectif. Quand se réunissant, en fait, on est moins vulnérable aux politiques répressives et aussi plus facilement éligible à celles qui vous seraient favorables.
Oui, c'est ça. Et après, un collectif déclaré, c'est pas comme un collectif qui n'est pas déclaré. Ça veut dire que nous sommes autorisés et tout, de faire, si on fait quelque chose et tout, ça veut dire sous l'autorisation de l'État.
Mmh. Parce que justement, je pense qu'il y a une question qu'on peut se poser quand on écoute et qu'on prend connaissance de cette manifestation. C'est que par essence, généralement, on s'imagine que les personnes sans papier évitent les contacts avec la police parce qu'elles risquent de se faire arrêter et donc de se faire expulser. Il faut savoir que les manifestations, c'est des lieux qui sont généralement quadrillés par... la police, qu'elle soit déclarée ou pas déclarée. Comment est-ce que vous avez géré et appréhendé ce contact avec la police dans le cadre de cette marche des solidarités?
Vous parlez de la marche ou des manifestations?
Les deux, règle générale.
Pour les manifestations, nous avons fait deux manifestations et nous n'avons pas eu de problème avec les policiers et tout. Pour la première manifestation, c'était le 30 mai, là où franchement, ils nous avaient donné que 2 heures. Après, ils ont dit, vous avez 2 heures pour manifester. Après, les gens, ils ont dépassé, donc il y aura un dépassement. Nous, personnellement, dès que nous avons entendu les policiers, ils ont dit, dispersez-vous, c'est bon, on est dispersés, donc on n'a pas assisté le reste. Donc, il faut respecter aussi, des fois, c'est le fait que nous donne une autorisation à manifester. Donc, on manifeste, mais par contre, il faut rester toujours sur la loi et tout. Et pour la marche, par exemple, là, la marche, avant de commencer la marche, nous avons déclaré à la ministère de l'Intérieur que voilà, il y a une marche qui se prépare, il y a les 5 heures, ça veut dire... Tous les gendarmes, tous les policiers, ils savent que voilà, il y a tout à Lyon, Montpellier, Marseille, Lille, toutes les villes, que voilà, il y a une marche. Donc, des fois, il y a des policiers qui nous accompagnent, mais pour nous protéger, pas pour faire autre chose. Et pour le moment, nous n'avons pas tombé sur un problème. Mais apparemment, il y avait quelqu'un qui est parti dans un bus pour aller pour faire la marche, mais il y avait contrôle de pièces d'identité. Donc, il était arrêté, mais nous avons intervenu collectivement. Donc, après, ils ont libéré le jeune. Voilà.
Ils ont pu le faire sortir, ouais. Ok. Et dans ces combats qui sont, j'imagine, pas toujours faciles à mener, ça vous arrive d'être découragé, là, en 4 ans et demi que vous avez passé en France à vivre cette situation? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie de baisser les bras sur ce combat pour la régularisation?
Baisser les bras?
Ouais.
Non. Non, comme je vous dis tout à l'heure, franchement, nous n'avons pas l'idée que les sans-papiers vont sortir et demander leurs droits et tout. Donc là, puisqu'il y a l'occasion, donc pourquoi pas. Moi, personnellement, j'ai 4 ans et demi, je peux attendre 6 mois après, je suis régularisée par la loi de Valls. Mais ça, s'il y avait une occasion, c'est pas forcément pour moi, mais pour les autres. Donc s'il y a une occasion, ou par exemple là, on fait une grande marche et on fait une grande manifestation, donc s'il y aura une régularisation de beaucoup de monde, donc... Et nous avons participé dans ça, donc ça fait du bien, des gens qui sont réalisés grâce à ton travail, grâce...
Oui, c'est valorisant et c'est une vraie réussite, ouais. Si ça finit par advenir. Est-ce que vous avez espoir que ces revendications... comment vous sentez le pouvoir politique jusqu'à présent là-dessus?
Il faut garder toujours l'espoir. S'il y aura une réponse, quelle que soit la réponse, positive ou négative, donc il y aura des réactions. Là, par exemple, s'il y aura la réponse positive, donc on sait très très bien s'il y aura une régularisation, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Parce que vu le cas de la France avec la crise, avec crise économique et tout. Donc, mais c'est déjà, il y aura au moins, il y aura des premières régularisations. Je ne peux pas imaginer le chiffre, mais c'est, au moins, c'est une victoire, une victoire. Donc, on va aussi combattre pour les autres et les autres jusqu'à arriver à la régularisation de tout le monde.
Parce que là, vous imaginez que, par exemple, ils pourraient, enfin, comment ils sélectionneraient, sur quels critères ils pourraient décider de régulariser certaines personnes et pas d'autres?
Nous demandons la régularisation de tous les sans-papiers, mais après, peut-être, il y aura les années de présence, peut-être, ça dépend les cas, ça dépend, mais nous, franchement, on veut bien tout le monde, espérons tout le monde, mais s'il y aura pas tout le monde, mais s'il y aura juste un chiffre qui passe être régularisé, donc ça c'est un plus pour nous et on va continuer pour les autres.
Je voudrais savoir si dans ce combat que vous menez, donc il y a une ou des personnes qui vous ont inspiré à agir dans votre action. Si vous pensez à la personne, c'est pas grave, c'est aussi super d'être sa propre inspiration. Parce que moi, c'est ce que je vois devant moi. Enfin, je vois une détermination un peu à toute épreuve. Enfin, j'imagine qu'il en faut du courage pour être maman, sans papier, travailler, organiser toutes ces activités militantes en parallèle. Ça doit faire un emploi du temps chargé. On va passer donc aux questions dont je parlais tout à l'heure, qui sont celles par lesquelles on conclut. Vous en avez choisi deux. Donc la première, c'est: à qui aimeriez-vous transmettre quelque chose?
Oui, je veux bien prendre à ma fille, à ma princesse. qu'elle garde toujours l'espoir et le courage.
Ça, c'est le message que vous voulez transmettre. Ouais. Donc, ok. Et elle a quel âge?
Elle a 8 ans.
Elle a 8 ans, d'accord. Ok. Et ensuite, qui est-ce que vous aimeriez entendre sur ce podcast?
Mes deux collègues, c'est Leïla et Mansef. Donc nous, les trois, nous avons créé ce collectif. Donc j'aimerais bien...
Ouais, effectivement, on a été obligés de réduire... là, j'essaye de faire des interviews en... un par un, parce qu'en termes sanitaires, c'est mieux. Mais effectivement, ce collectif, vous l'avez créé à trois. Ouais. Et on pense fort à vos collègues aussi. Ouais. Merci beaucoup, donc. Aussi pour le message que vous transmettez, pour la mobilisation. On va indiquer dans la description du podcast plein de ressources pour les personnes qui souhaiteraient se renseigner. Vous, est-ce qu'il y a des endroits où vous souhaitez envoyer les personnes qui vous auraient entendu?
Il y a la marche de solidarité, c'est ça, la marche de solidarité où il y a tous les collectifs, tous les citoyens. Donc il y a l'email, il y a tout, donc c'est quelqu'un, ils vont renseigner. Il y a aussi une cagnotte si quelqu'un veut participer et tout. Donc, si vous voulez, après, je vous partage le lien de la marche de solidarité. Comme ça, il y a toutes les informations, il y a tous les rendez-vous, il y a tout.
Voilà, donc comme ça, on pourra tout mettre dans la description. Dernière petite question, est-ce qu'il y a encore des départs locaux d'ici à samedi? Est-ce qu'il y a certains rendez-vous dans certaines villes qui sont donnés
En fait, les marcheurs, ils vont rentrer par différentes villes. Par exemple, les marcheurs qui sont venus de Marseille, Montpellier, Lyon, ils vont rentrer par Melun, l'Île-de-France. Ils vont rentrer par Melun, Évry, après arriver à Vitry. Pour les gens qui venaient de Rennes, aussi par Vitry. Les gens qui viennent de Strasbourg, ils vont rentrer par Saint-Denis. Les gens vers le nord de l'île, ils vont rentrer aussi vers Saint-Denis. Donc là, normalement, tous les marcheurs avec tous les soutiens, le 15 et le 16, ils seront là. Donc le samedi, il y aura départ de trois portes. Porte d'étalée, porte de choisi, porte d'étalée, porte de choisi, porte de Vincennes. Oui. Donc les marcheurs, ils vont marcher jusqu'à arriver à la République. Donc rendez-vous à la République à 14h. Et après, on va essayer d'aller vers le Concorde à partir de 14h.
Et donc, rendez-vous devant l'Élysée pour les trois grandes revendications portées par le mouvement. Donc la régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture des centres de rétention administrative et le logement pour toutes et tous. Ouais. Et ben, merci beaucoup, Amel, pour votre témoignage et votre temps.
Merci, bon courage.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.